c'est Alexandre Armadi, qui est psychanalyste, c'est ça, psychanalyste jungien, qui va nous parler des rapports entre Jung et les Corvin, monde de l'inconscient et monde imaginal. Alors on va, il va nous emmener encore en voyage. Je voudrais juste, en préambule à cette intervention, dire à ceux qui ne l'ont pas encore découvert qu'est paru donc en septembre le livre rouge de Jung avec les illustrations qu'il a faites lui-même de cet ouvrage. Et il est vrai qu'en le lisant, ce livre rouge de Jung, j'ai été époustouflée et j'ai bien vu qu'il était dans la droite ligne de ces récits visionnaires qui ont tant intéressé et fasciné Henri Corbin. Et il est vraiment dans cette lignée-là, et la lecture de ce livre rouge est une expérience époustouflante. Il faut quand même que je le dise, et je suppose que vous allez en parler, ou en tout cas y faire allusion, je ne sais pas, mais ça m'a beaucoup fait penser à Henri Corbin. Donc je vous laisse la parole pour nous parler de Jung et Corbin, monde de l'inconscient et monde imaginaire.
D'abord, je vais commencer par m'excuser. En tant que victime, je dois commencer mon présentation par un diagnostic dramatique. Là, lui-même va très très mal. Je le vois donc tous les jours dans mon consultation. Là, lui-même va tellement mal que l'âme du monde en est contaminée. L'âme du monde va aussi très mal. Donc, on sait bien, écologiquement, nous sommes dans un monde surchauffé, surpeuplé, surexploité. Les espèces animales, végétales disparaissent tous les jours. On pourrait nous-mêmes nous faire disparaître si on continue comme ça. Économiquement, ça ne va pas mieux. Spirituellement, les églises se vident, les fanatismes grondent de partout. Psychologiquement, les gens sont très désorientés. On parle souvent des psychiatres de borderlandisation de la société. Les gens sont complètement désorientés, complètement déstabilisés. Donc on est vraiment dans ce que les... Les hindous appellent le Kali Yuga, l'âge de fer. Moi, parfois, je me demande si on n'est pas même plus bas que le fer. On est dans l'âge de plastique. Cette matière vulgaire qui pollue tout, qui a la différence du fer, à la différence de la pierre, à la différence du bois, ne vibre pas, ne conduit pas. Donc, c'est vraiment une matière opaque. Corbin aurait peut-être dit que c'est une matière arimanienne, qui vient du dieu des ténèbres. Alors, désolé pour ce début dramatique, mais heureusement, dans ce marasme spirituel, Corbin a quand même allumé une lumière. Donc déjà dans les années 30, il faisait partie de la jeunesse, des jeunes intellectuels non conformistes. Il avait déjà constaté que l'homo sapiens avait perdu la sagesse et était devenu homo economicus. Je cite, machine imbécile à produire et à consommer. Et pour sortir, pour retrouver notre sagesse, pour redevenir homo sapiens, il a essayé de trouver un moyen de se réorienter. Se réorienter vers le monde de l'âme, le monde de l'inconscient, enfin, l'inconscient c'est pour le terme de nous, mais le moins douce imaginaliste, ce monde médiateur, comme disait M. Jambet. Et on se réoriente grâce à l'ange, cette figure par excellence du monde médiateur. Donc l'âme peut être réorientée, sauvée, grâce à la figure de son ange. On trouve ainsi au-delà de l'horizon du temps historique, de l'historicisme, un temps vertical, un temps sacré. Et on pourrait ainsi sortir de cette décadence, de cette maladie actuelle de l'âme humaine. On peut se demander d'ailleurs si la sénescence programmée des appareils électroniques, les starlets qui deviennent idoles planétaires en un jour et ensuite retombent dans l'oubli, les ressources financières et les madoffs qui en un clic de souris vont disparaître, beaucoup de choses, si ça c'est pas un symptôme aussi de l'historicité, ce temps qui s'épuise à peine arrivé. Finalement, le temps va tellement rapidement qu'à peine arrivé, il est déjà périmé par rapport à lui-même. Donc Corbin a raison. On a besoin d'être dans la méta-histoire. Hors de la méta-histoire pour le salut. Et Jung avait finalement une même approche par rapport à l'âme humaine. Jung se révoltait, il avait une sorte de révolte un peu corbinienne. Corbin disait qu'il fallait ne pas confondre l'imaginaire avec l'imaginal. Et Jung, lui, se rebellait contre le « es ist nur psychologisch », c'est seulement psychologique. Alors Jung s'étonnait, on peut tout faire pour son corps. On fait du sport, on mange bien, on s'habille bien, on fait beaucoup de choses, mais on ne fait rien pour son âme. et dire es ist nur psychologisch, un mot que Jung entendait sans arrêt, c'est seulement psychologique, c'est comme dire c'est pas vrai, c'est irréel, c'est factice. On peut voir en médecine d'ailleurs, on parle beaucoup maintenant de douleur psychologique, donc pour certains médecins ça veut dire des douleurs simulées, alors que le patient lui a vraiment mal, donc c'est toujours très difficile de lui dire ah c'est que psychologique, rentrez chez vous. Donc, Jung a aussi eu son ange. Il a aussi trouvé un moyen de se réorienter vers l'âme. Et ce moyen s'appelle le soi, qui est, d'une certaine façon, le centre absolu de la psyché, et en même temps sa totalité psychique. Donc le soi est ce qui guide l'homme vers la totalité, vers la complétude, et c'est en même temps le but à atteindre, et c'est en même temps le processus lui-même. Corbin, dans un texte qui a été publié dans les Yarbrough de Eranos en 51, disait « L'âme terrestre est en déficience, en retard sur elle-même, c'est-à-dire sur la totalité de son être. » Je pense que Jung aurait été d'accord avec ça. On est finalement toujours en décalage par rapport à nous-mêmes. C'est justement dans ce temps métahistorique, dans sa propre métahistoire, qu'on peut retrouver notre complétude. Donc on est là, très loin de la psychiatrie biologique, qui est en vogue de nos jours, la psychiatrie des molécules du cerveau, qui finalement est, enferme l'âme dans, je dirais, pire que le monde phénoménal, mais le monde infra-phénoménal des molécules du cerveau. Et on essaie de traiter l'âme avec de la pharmacologie, donc une véritable chimie de guerre qui fait des dommages collatéraux invraisemblables avec des effets secondaires. On est aussi loin de Freud, qui lui, à mon sens, fait, et je ne critique pas du tout ni Freud ni les Freudiens, mais fait un peu de l'archéologie psychanalytique. Il aime à retourner au traumatisme de l'enfance, au passé, au conflit inconscient refoulé. Donc, à la différence de Jung, qui pour moi est d'une certaine façon corbinien, va chercher dans l'Orient de l'âme, Freud va chercher dans l'Occident de l'âme, où la lumière est tombée. Donc Jung et Corbin pouvaient évidemment que se rencontrer, ils se sont rencontrés à Eranos, ils ont beaucoup médité ensemble. Mais qu'en est-il de ce partage? Est-ce que finalement la psyché est-elle l'âme? Le monde inconscient, le monde de l'inconscient, est-il le monde imaginable? L'ange est-il le soi? Je vais vous décevoir, je ne vais pas du tout pouvoir répondre à ces questions, mais je vais un petit peu vous montrer comment on peut articuler ces deux réalités ensemble. Donc ce sera un point de vue qui sera pas forcément un point de vue officiel jungien, donc un point de vue un tout petit peu hétérodoxe. Donc, je pense que Jung aurait été de toute façon très fier que le jungien soit peu orthodoxe, et je me défends aussi en disant que je réponds à l'appel que Denis Brougemont aurait entendu de la bouche d'Henri Corbin, hérétique de toutes les religions, unissez-vous. Donc, comme vous le savez, Henri Corbin a insisté sur le sauver les phénomènes, à sauver les phénomènes. Il faut, à travers la brillance du phénomène, retrouver la lumière originelle qui se cache dans les ténèbres, en bien manifestée. Donc, philosophie iranienne, philosophie comparée, page 22-23, il décrit cela. Le phénomène, c'est ce qui se montre, ce qui est apparent, et qui, dans son apparition, montre quelque chose qui peut se révéler en lui, qu'en restant simultanément caché sous son apparence. Quelque chose se montre dans le phénomène et ne peut s'y montrer qu'en se cachant. Le phénomenon, c'est le dahir, l'apparent, l'extérieur, l'exotérique. Ce qui se montre dans ce dahir, tout en s'y cachant, c'est le batin, l'intérieur, l'exotérique. La phénoménologie consiste à sauver le phénomène, sauver l'apparence en dégageant ou en dévoilant le caché qui se montre sous cette apparence. C'est laisser se montrer le phénomène tel qu'il se montre au sujet à qui il se montre. Donc une phrase, finalement, qui semble simple, mais c'est assez compliqué. Et cette définition de la phénoménologie pourrait tout à fait décrire l'approche de Jung par rapport à l'âme humaine, à la psyché humaine. Finalement, notre psyché se cache aussi dans l'ombre. On a l'habitude de s'identifier à notre moi. Donc, aux personnes qui ne connaissent pas la psychologie, je dis souvent le moi, c'est comme l'écran de l'ordinateur. C'est la partie avec laquelle on travaille, avec laquelle on interagit. Mais c'est une petite partie de tout ce qu'il y a dans l'ordinateur. Il y a tout un disque dur derrière, avec beaucoup de fichiers souvent oubliés, qui peuvent alourdir le système. Et ça, c'est notre inconscient. On a derrière notre psyché, derrière notre moi, tout un inconscient rempli de souvenirs, d'images, et qui sont la plus grande partie de notre âme. Jung a un livre qui s'appelle « Les racines de la conscience ». Donc on voit bien que la conscience s'enracine dans quelque chose de beaucoup plus profond, dans une terre, dans quelque chose de sombre. Dans cette même œuvre, d'ailleurs, Jung fait des parallèles entre sa propre théorie, les alchimistes. Notamment, il parle de Paracels et Gerhard Dorn. Il met en évidence une lumière naturelle en l'homme, lumen naturae. Alors je le cite, qui illumine le conscient, caché dans les profondeurs de l'ombre, comme des étoiles dans un ciel nocturne. Ces étoiles sont des scintillae, luminosités germinales qui luisent hors de l'obscurité de l'inconscient, sorte d'étincelles primordiales intérieures, d'origine divine, qui ensemble forment les racines de la conscience. Nous s'intéressons des luminosités germinales. Nous avons dans notre psyché des graines de lumière, et de ces graines vont surgir des branches qui vont donner la lumière du conscient. Et ces graines sont d'origine divine. D'ailleurs, Jung, à un moment donné, dans le même texte, le dit « luminositas » correspond à « numinositas ». Donc le lumineux correspond au lumineux. Le lumineux est ce qui caractérise nos expériences divines, on va dire. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve aussi quelque chose comme le hadith du trésor caché. Il y a quelque chose qui se cache dans les profondeurs et qui veut se manifester, qui veut se conscientiser à lui-même. Dieu est tellement transcendant. Si je faisais la psychanalyse de Dieu, Dieu est tellement transcendant qu'il est inconscient à lui-même, et il a besoin de se conscientiser lui-même à travers la création. Donc nous voyons le monde avec le moi, et le moi n'est que la fleur de la dernière branche de l'inconscient. Donc il y a des luminosités germinales, et on arrive au conscient. Donc, le moi a en effet une lumière, mais on s'identifie à la lumière du moi. On a tellement l'habitude de fonctionner avec notre moi, qu'on confond la lumière avec la lumière du moi. Alors, comme le dit le verset du Coran, la sourate de la lumière, verset 35, lumière sur lumière. Il y a vraiment là aussi une lumière sur lumière. Et tant qu'on reste limité à notre moi, donc aux branches de la conscience qui est à ses racines, c'est comme si on perdait la deuxième partie du verset. Dieu guide qui il veut vers sa lumière. Donc on a besoin de cet autre absolu, de ce Dieu, sinon l'homme reste ébloui par sa propre lumière, qui est tellement évident qu'elle en devient invisible. La lumière fait voir, mais on la voit pas. Donc c'est, d'une certaine façon, Saint-Jean-Baptiste parle de halage, c'est une sorte d'erreur halagienne de notre conscient de se méprendre pour le divin, de croire que le moi fait la lumière sur les choses, ou pire, que le moi est la vérité, est la clé de la vérité. On pourrait dire qu'à notre époque, on est dans un monde très individualiste, très centré sur le moi, donc beaucoup de pathologies narcissiques, l'égocentrisme, la psychorigidité, l'inflation de l'ego, le fanatisme, le désenchantement du monde, tout ça sont des symptômes qui sonnent comme un analhaq de halage, mais sans enthousiasme, sans beauté. De là vient la difficulté de faire de la psychologie. Pour Jung, comment faire de la psychologie vu que le sujet de l'étude, l'objet de l'étude est aussi le sujet. Finalement, on étudie la psyché avec sa propre psyché. Donc on a besoin de cette altérité absolue qu'est le soi. Le soi serait donc cette altérité absolue vers laquelle on tend indéfiniment. Et cette dynamique de tendre indéfiniment vers quelque chose d'autre nous permet finalement de toujours nous décaler par rapport à nous-mêmes. Donc, le moi n'est pas la personnalité totale, le moi est ignorant, ignorant des contenus de l'inconscient. Donc, pour reprendre des mots de Corbin, je dirais que le moi est la face zahir de la psyché, la face exotérique, qui repose sur le champ plus vaste du bâtiment, de l'ésotérique de l'inconscient. Donc, le moi, notre fonctionnement conscient, notre fonctionnement tous les jours, est comme la lecture littérale du texte sacré. Il faut faire un tahwil, pour reprendre ce terme chiite, cher à Corbin. Il faut, avec le tahwil, avec l'herméneutique, révéler l'ésotérique sous l'exotérique. Donc Corbin nous le dit dans Philosophie iranienne, Philosophie comparée, page 23. Le tahwil, c'est ramener une chose à sa source, à son archétype, shizirob et aslechod rasamidan. En y reconduisant, on la fait passer de niveau en niveau de l'être. Et par le fait même, on dégage la structure d'une essence, ce qui ne veut pas du tout dire être structuraliste. La structure, c'est le tartib al-mazahir, le système des formes de manifestation d'une essence donnée. Donc, je ne suis pas arabisant, mais je pense que tartib al-mazahir veut dire les échelons de manifestation. Donc c'est intéressant, le tahwil nous fait remonter différents niveaux de l'âme, on retrouve différentes étapes, différentes manifestations, on arrive aux archétypes. Alors évidemment, j'ai choisi cette phrase car elle contient le mot archétype, qui est un mot jungien par excellence. Jung l'utilise pour la première fois en 1919, mais le concept existait un peu avant. Tout le système jungien repose sur les archétypes. notamment sur l'archétype des archétypes qu'est le soi. Donc, à la différence de l'idée commune, je dirais que l'archétype est une idée platonicienne ou une forme culturelle figée qu'on se transmet héréditairement, Jung le définit comme un modèle hypothétique non manifeste, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, je vous avoue, un élément vide, formel, qui n'est rien que facultas preformandi, une possibilité donnée a priori de la forme de représentation. Donc ça ressemble un peu au dator formarum, wahib al-suwar, le donneur de forme. Pour dire simplement, une notion qui est très compliquée, l'archétype, lui, il a beaucoup évolué dans le temps. L'archétype, c'est comme un organe psychique. Il manifeste dans la psyché des images multiples, mais il y a toujours une certaine unité. Alors, par exemple, chez une personne, il est complexe lié à la mère. Ils sont toujours très personnels. Mais ils seront toujours sous-entendus par l'archétype de la mère, qui est tout autant nourricière que dévorante. Donc, je m'excuse pour toutes les mères dans la salle, que j'aime énormément, mais une mère est tout autant une Junon sévère qu'une Vénus, toute douce et toute belle, et chaque individu verra différemment la prise de forme de l'archétype dans son âme, et réagira personnellement à elle. Donc, pour Jung, des grands chaînes mythologiques peuplent notre âme, d'où l'intérêt d'étudier les religions, la philosophie, les systèmes religieux, les traditions populaires, les contes de fées, finalement toutes les manifestations de la spiritualité de l'homme. Et dans un texte qui s'appelle « Introduction à l'essence de la mythologie », il nous dit que l'image archétypique exprime autre chose que ce qu'elle donne à voir. Un tiers qui demeure toujours inconnu et informulable, et quel est le but spirituel vers lequel tend la nature de l'homme. Donc là, je trouve qu'on se rapproche vraiment de la définition du taoïsme chez Corbin, et des archétypes chez Corbin. Michel Kahneman a une bonne... résume bien l'archétype. Il nous dit qu'il est à la fois matrice d'image dans le champ de l'inconscient, conditions de possibilité par rapport à l'expérience et structure métaphysique dans le royaume réel de l'âme. Donc matrice d'images dans le champ de l'inconscient, l'archétype crée des images dans l'inconscient, des images qui nous permettent de faire une médiation justement avec l'inconscient. Conditions de possibilité par rapport à l'expérience, donc les archétypes structurent notre essence, structurent notre psyché, donc structurent nos réactions par rapport au monde, par rapport à l'expérience du monde. Et structure métaphysique dans le royaume réel de l'âme. Là, on va passer dans la métaphysique. Donc, le monde de l'âme, finalement, on l'expérimente de façon un peu magique, avec toute la richesse du mot, de l'étymologie de magie. C'est un monde visionnaire, peuplé donc de dieux, de démons, tous les dieux et les démons de l'humanité, on l'a dans l'inconscient collectif, de djinn, de fées, d'anges, ce qu'on veut. Jung l'a appelé le monde de l'inconscient collectif. Pour ma part, j'y vois le même monde que le monde imaginaliste. Et le monde des récits visionnaires des mystiques persans étudiés par Corbin. Donc notre psyché, l'histoire de notre psyché est une hiéro-histoire, une méta-histoire. On peut faire encore plus de rapprochements. Corbin nous disait donc que le taoïsme nous permet d'aller de niveau en niveau, jusqu'à arriver à l'archétype. Et chez Jung, c'est la même chose. Il y a différents niveaux dans l'âme avant d'arriver à l'archétype. Donc deux étapes de Kalti Valmazahir sont l'ombre et l'animal animus. Donc, pour définir simplement la chose, l'ombre, ce serait le représentant de notre inconscient personnel, et l'animus anima, le représentant de l'inconscient collectif. L'ombre, ce serait un petit peu comme ce que les soufis appellent nafs, le Satan à l'intérieur de nous, ou plutôt le nafs amara, l'âme concupiscente, l'âme qui nous pousse au mal. L'ombre, c'est le mal en nous. Mais il ne faut pas faire de moralisme. Je pense que c'est Freud qui disait l'inconscient est amoral. Et on ne peut pas combattre l'ombre. On ne doit pas combattre l'ombre. On doit la pacifier. Donc les soufis diraient qu'il faut passer de nafs amara, l'âme concupiscente qui nous pousse au mal, à nafs mutmaina, l'âme apaisée. Donc laissez le diable dans l'ombre, il deviendra plus dangereux, mais battez-vous contre le diable, il va se déchaîner de plus belle. Donc on ne peut pas vraiment se battre contre l'ombre. En psychologie, c'est la même chose. Laissez l'inconscient dans l'ombre et il va vous trahir à travers des lapsus, des projections. Mais essayez de combattre votre inconscient et il va se retourner contre vous. Il y aura un retour de flamme dramatique. Donc la confrontation avec l'âme, l'ombre est une étape assez difficile. Jung disait que c'était le processus alchimique du nigredo, la phase noire. Mais c'est pas une expérience seulement négative. Car l'ombre, dans l'ombre se cachent aussi des potentialités non réalisées de la psyché, des trésors cachés de l'âme. Donc tout ce qu'on ne manifeste pas et aussi dans l'ombre. Alors si je suis quelqu'un de trop intellectuel, je laisse dans l'ombre mon côté artistique, ce n'est pas un côté néfaste. Donc l'ombre n'est pas que négatif. Il y a un passage éclairant dans Corbin, dans l'homme de lumière dans le soufisme iranien, page 110-111, il nous parle de la lumière noire, nous les sillons. Je vais vous lire le passage, je mets quelques parties. Quelque chose qui éclot au terme d'un combat. Une fois le seuil franchi, la perspective s'ouvre sur les péripéties d'une histoire secrète. Les étapes de l'itinéraire spirituel avec les périls et les triomphes de la personne de lumière. La dimension de la surconscience s'annonce symboliquement par la lumière noire. Chez Semnoni, elle marque l'étape initiatique la plus périlleuse, celle qui précède immédiatement l'ultime théophanie qui s'annonce dans la lumière verte, Visios Malakdima. Il y a une obscurité qui est la matière. Il y a une obscurité qui est l'absence de matière. La parcelle de lumière absorbée dans le puits obscur, Nasamara, selon Najum Khodra et Sohrawardi. Cela, c'est le corps noir, le puits ou four obscur, le nègre. C'est la ténèbre d'en bas, l'infraconscience ou subconscience. D'autre part, il y a la lumière sans matière, non plus donc une lumière qui devient visible parce que une matière prédonnée l'absorbe, mais une ténèbre d'en haut. Elle correspondrait à la lumière noire du Deus Absconditus, le trésor caché qui aspire à se révéler et qui ne peut se manifester qu'en se voilant à l'état d'objet. Cette ténèbre divine ne se rapporte donc pas à la ténèbre d'en bas, celle du corps noir, l'infraconscience, elle est le ciel noir, la lumière noire en laquelle s'annonce la surconscience, l'ipséité du Deus Absconditus. Donc un passage intéressant, car Corbin décrit aussi deux lumières noires. D'abord une lumière matérielle, donc on pourrait dire presque plus biologique, plus pulsionnelle. Et là, ce serait l'équivalent de l'ombre, l'inconscient personnel, les pulsions avec lesquelles on se bat, la masse. Et une lumière non matérielle, la partie spirituelle de l'ombre, qui veut se manifester pour faire apparaître le trésor caché. Donc là, c'est vraiment la partie non manifestée de l'ombre. Et l'ombre est le premier archétype qu'on rencontre dans l'âme. Donc c'est le héros de tout ce qu'il y a après. C'est l'annonciateur du soi. Le soi va se manifester aussi à travers de l'ombre. Donc le soi, comme Deus Absconditus, notre psyché, va se manifester aussi à travers l'ombre. Et chez Corbin, on retrouve ces deux ombres, ces deux lumières noires. L'anima, qui est l'étape après l'ombre, est a priori moins négative. Elle est par excellence notre double psychique. Comme son nom l'indique, anima, elle est la personnification de toute notre âme. Alors Jung explique assez simplement. Jung disait, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Donc on est 50% homme, 50% femme. A priori, on n'est que d'un seul sexe biologiquement. Donc moi, je suis un homme. Où est passé 50% de la femme? Dans mon âme. Dans l'opposé du biologique, le psychique. Donc l'homme a une âme féminine, anima, et la femme a une âme masculine, animus. Donc ces archétypes, comme tout contenu de l'inconscient, ont un double aspect. C'est-à-dire varier les bâtiments. Donc l'anima a un aspect extérieur qui est hérité des imagos parentales. Finalement, mon anima vient en partie de la relation à ma mère ou de l'image de ma mère et après de l'image des femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et plus loin, des femmes archétypiques. Donc ça, c'est la phase intérieure. Et la phase intérieure est aussi se représente, vu que l'anima est la personnification de l'âme-même, est liée à la relation qu'on a avec notre propre âme. D'une certaine façon, si on traite mal son âme, l'anima qui représente cette immensité psychique et notre âme, de l'inconscient collectif, va se manifester de façon terrible. D'ailleurs, pour Jung, elle a l'interface entre l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Donc, tu peux imaginer l'inconscient collectif, le réservoir de l'âme universelle, quelque chose de rempli d'énergie, quelque chose qui peut être potentiellement très destructeur. Et l'anima et le psychopompe gardent la porte sur l'inconscient collectif. Donc, si vous énervez un peu trop votre âme, l'anima va s'énerver, va vous décharger des énergies qui vont être mal canalisées. Un peu comme dans une psychose, une schizophrénie. Donc au lieu d'être illuminé par une lumière, nous, on est déchiré, brûlé par un feu, nar. Ce qui est intéressant, dans le passage précédent de Corbin, on voit aussi que l'ombre, alors chez Jung, l'ombre est juste avant l'anima, enfin avant, c'est pas comme si c'était topographique, mais c'est une image, et la lumière noire est avant la lumière verte. Alors c'est intéressant parce que l'inconscient collectif serait donc le monde de la lumière verte. Et les mystiques voient souvent le monde imaginal avec les photismes de couleur verte. Donc, Corbin a beaucoup étudié les Chétris, les maîtres Chétris ont la vision de la terre de Roukhalia avec les cités d'émeraude, Jabarta, Jabalta. Dans le taoïsme aussi, il y a une couleur, on dit Qing en chinois, qui veut dire le vert bleu, qui serait la couleur de la mer ou de la forêt juste à l'horizon. Donc, toujours cette idée de quelque chose proche de l'horizon, juste après l'horizon. Donc, comme si ce monde spirituel est de couleur verte, et la lumière noire est juste avant la lumière verte, et chez nous c'est pareil, la lumière noire, l'ombre est juste avant l'anima qui nous ouvre vers ce monde de l'inconscient collectif, qui est finalement ce, en tout cas pour moi, le monde de la lumière verte, le monde imaginal, Jung appelle ce l'inconscient collectif, l'unus mundus, l'anima mundi. Vous avez aussi un autre rapprochement avec Corbin qui est la figure de la Dena zoroastrienne. C'est notre paraître céleste, notre double céleste qu'on rencontre sur le pont Chinvat après la mort, qui est notre religion, notre foi, notre relation justement au ciel et à notre âme. Donc c'est comme l'anima, peut-être soit une méchante sorcière qui nous pousse en enfer, ou une douce fée qui nous accueille dans le monde paradisiaque, le monde divin, où on rentre en contemplation de son soi céleste, la Tavashi. Donc on peut dire que c'est le moment où la face de Dieu qui regarde l'homme rencontre la face de l'homme qui regarde Dieu, et les deux faces s'embrassent enfin. C'est la parousie, le retour de l'imam caché, dirait Corbin. Donc comme dirait Raphaël de Shiraz, c'est le moment où il n'y a plus d'amant plus aimé, mais il n'y a plus que l'amour. Donc vous le voyez, je fais des jeux entre les termes corbiniens et les termes lumières. Donc on sait depuis Montesquieu que c'est quelque chose d'extraordinaire d'être persan. En effet, je pense que c'est extraordinaire d'être corbinien, extraordinaire d'être jungien, mais comment peut-on être corbino-jungien? C'est une question que je pose encore. Enfin, moi, je passe de termes corbinien à des termes jungiens, mais peut-être que j'ai quelque chose de complètement arbitraire. J'intervertis les termes, mais je ne sais pas si je suis trop hérétique. Peut-être que je veux rapprocher deux savoirs de l'âme qui n'ont rien à faire en commun. Peut-être que la psyché n'a rien à faire avec l'âme. La religion s'occupe de l'âme, la mystique s'occupe de l'âme, la psychologie s'occupe de la psyché. Et les deux entités sont dissemblables. Je pense que le bas laisse exactement là. Pour les mystiques, la psychologie s'occuperait que de la partie de l'âme qui est d'une certaine façon enfermée dans le cerveau. Se trouve dans notre tête. Donc au mieux, ce qui se passe dans notre tête serait un reflet un tout petit peu de ce qui se passe dans le monde métaphysique. Mais au pire, c'est plutôt un moyen de perdition. L'ego, justement, nous perd dans le chemin de réalisation spirituelle. Pour les psychologues, c'est le contraire. Le mystique délire. Le mystique est psychotique, est schizophrène. Son expérience est délirante. Donc, au mieux, c'est une expérience délirante qui pourrait apporter inspiration, intuition, inspiration créatrice, éventuellement, mais au pire, nous plonge dans la schizophrénie. Donc, je peux dire les choses autrement. Est-ce qu'un schizophrène est un prophète, ou est-ce qu'un prophète est un schizophrène? Si j'étais un psychiatre très sévère, je dirais les prophètes sont des schizophrènes. Donc, des délires mystiques, délires de persécution, inflation de l'ego, hallucination auditive, hallucination visuelle. Alors peut-être que les prophètes sont des schizophrènes. Et dans ce cas-là, les schizophrènes sont énormément vitales à l'âme humaine. Peut-être qu'il faudrait du coup sortir les schizophrènes des sociaux psychiatriques, leur donner un bâton, un manteau et les laisser prêcher. On est beaucoup de psychiatres à remarquer que souvent les schizophrènes d'ailleurs ont beaucoup d'intuition. Le monde psychique décrit par Jung est immense, peut-être même infini, mais c'est quand même une sorte de bulle psychique. Donc il est comme renfermé sur lui-même. On pourrait parfois critiquer Jung et dire qu'il est trop panpsychique. Donc une bulle gigantesque remplie de millions d'entités incroyables, mais une bulle quand même. Donc, la ville est fermée, on est tous dedans. Le monde imaginal décrit par Corbin est encore plus grand, encore plus fascinant, mais il faut le dire, difficile d'accès. Moi, je pourrais pas jeter ma main au feu d'avoir connu le monde imaginal. Et je pense que personne ne peut se targuer d'avoir fait une expérience imaginale en étant sûr que ce n'est pas une expérience imaginaire. Donc on est d'accord, le microcosme serait fait dans le macrocosme, l'homme est à l'image de Dieu, le métaphysique serait fait dans le métapsychologique, pourquoi pas. Et malgré ça, on n'arrive pas à faire le lien entre les deux phénomènes. On trouve les traces de lumière dans la psyché humaine, mais c'est c'est la lumière phosphorescente, ce n'est pas de la vraie lumière. Mais à nouveau, peut-être qu'à notre époque de ténèbres, ces traces de lumière sont mieux que rien pour s'orienter, à condition de retrouver après la vraie lumière. Donc d'où l'importance de ce psyché, de ce passage de la psyché à l'âme. Il ne faut pas rester dans la contemplation des deux réalités, psyché et âme, sinon on tombe dans ce que Corbin disait, de faire attention entre le tachy et le tactile, l'anthropomorphisme et l'idolâtrie métaphysique. Trop rapproché de Dieu, trop éloigné de Dieu. On pourrait dire qu'à faire trop de jungisme, on tombe dans le tachy. Les motifs de l'âme deviennent des motifs divins et on enferme Dieu dans la psyché. À faire trop de corbinisme, excusez-moi du terme, et c'est le tactile. Notre vision métaphysique du monde devient tellement incroyable, tellement énorme qu'on est écrasé par cela. Et la sphère métaphysique devient inatteignable. Donc on est toujours dans la scission entre le monde spirituel et le monde matériel. Et c'est par excellence la maladie de notre époque. Alors cet imaginaire n'est peut-être pas tant un troisième monde qui serait entre le monde purement spirituel et le monde purement matériel, mais l'imaginaire serait l'interface, serait le monde ou le lieu, ou un lieu même quasiment virtuel, où ces deux mondes s'embrassent. Corbin le dit, hein, les esprits se corporalisent et les corps se spiritualisent. Ça ressemble à ce que Jung appelle le psychoïde. C'est très mystère, c'est une notion très mystérieuse chez Jung. C'est la zone mystérieuse entre le psychique et le matériel. C'est la substance de l'archétype. Jung aurait rêvé que Jung avait psychanalysé Wolfgang Pauli, qui était un prix Nobel de physique, qui était un prix de physique quantique, et Jung aurait adoré que la physique et la psychologie se rapprochent. Parce qu'à travers le monde quantique, ou à travers les recherches quantiques, on pourrait faire un lien entre le matériel et le spirituel, et le psychique. Et ce lien, c'est le psychoïde. Donc il faut aller au-delà de cette théologie des miroirs, cette vision spéculaire, le macrocosme et le microcosme, ils se reflètent l'un dans l'autre. Mais on est comme fasciné par les images des deux miroirs, et on perd un petit peu de vue la miroirité, qui serait l'interface. Et c'est peut-être ça le véritable sens de l'imam dans le schisme. La face de Dieu tournée vers l'homme et la face de l'homme tournée vers Dieu. Dieu et sa créature sont chacun à l'image l'un de l'autre. Mais plus important que eux deux, c'est le regard mutuel de leur face, leur interface, qui est le symbole vraiment de l'amour entre l'homme et Dieu. Donc peut-être là une véritable tarouille, dans un face-à-face érotique qu'on fera avec le texte révélé, avec les phénomènes du monde ou avec notre âme. Donc, en psychologie, je dirais du coup, l'interprétation n'est pas la chose la plus importante, c'est l'interprétativité, au présent. Sinon, c'est comme si on enfermait un tarouille dans l'historicisme. Les imams du schisme disaient, il faut lire le Coran comme s'il était révélé à nous à ce moment même. Sinon, il serait l'être mort. Mais attention, si on lit un tarouil, magnifiquement bien expliqué par Corbin, et qu'il y a un tarouil historique du passé, là aussi on l'enferme dans l'historicisme. Donc Corbin n'a peut-être pas voulu nous faire connaître l'imam, même s'il l'a fait de façon incomparable, mais il a voulu nous faire rencontrer l'imam. Lui parler au présent, dans le présent de son âme. Je pense que Jung était un petit peu identique quand il disait « Je suis content d'être Jung et de ne pas être Jungien. » Pour lui, on ne pouvait pas être Jungien. On ne pouvait pas appliquer les tarouilles Jungiens pour analyser l'âme humaine. On ne peut pas appliquer des recettes Jungiennes avec le patient. On ne peut pas appliquer un dogme psychanalytique pour interpréter les rêves du patient, par exemple. On fait simplement face à face, dans le présent de nos âmes, psyché avec psyché. Et on essaie de créer cette interface, justement. Mais le fait qu'il n'y a pas qu'une seule interprétation possible en analyse, l'important étant simplement entre guillemets, se trouver en relation pour interpréter. Et cette relation, à mon sens, est beaucoup plus que thérapeutique. On parle beaucoup de relation thérapeutique avec son psychiatre, avec son psychanalyste. C'est plus qu'une relation thérapeutique, c'est vraiment une relation érotique sacrée, qui fait venir le soi, qui permet au soi de créer ce champ dans lequel il va se manifester. Donc d'une certaine façon, un analyste, plutôt Jungien, et un patient, face à face, âme face à une autre âme, pour venir l'imam du processus psychanalytique. Et c'est pour ça que l'amélioration psychique d'un patient n'est pas tant liée à une compréhension alternative des problèmes du passé pour aller de l'avant, comme on dit. Donc d'ailleurs on voit bien, souvent on comprend parfaitement ce qui bloque dans notre passé, mais on n'arrive pas du tout à le changer et à aller de l'avant. Et c'est plutôt un retour au présent d'éléments anciens pour prendre un nouveau départ dans le futur. Donc c'est vraiment une résurrection. C'est exactement pour cette raison qu'on ne peut pas prouver scientifiquement comment s'améliore l'état psychique d'un patient. La plus grande dame des homo economicus qui gère les finances de la santé d'ailleurs. Je ne sais pas si en France c'est pareil qu'en Suisse, mais probablement. Et cette vision aussi permet de dépasser sans la nier l'éternel problème de la psychanalyse et le transfert et le contre-transfert, de voir au-delà de cela, dans ce sens le champ intermédiaire qui se manifeste le soi. Donc pour moi, la relation thérapeutique est comme un catalyseur qui fait apparaître l'imaginal, qui nous permet d'être dans la thérapie, hors de la linéarité du temps, et amène à une sorte de présent total qui permet de trouver toutes les potentialités futures. C'est peut-être ce que Corbin nous dit dans un autre passage de philosophie iranienne, philosophie comparée, page 79. Un beau passage. Ni la vie, ni la mort, ni l'avenir, ni le passé ne sont des attributs des choses. Ce sont des attributs de l'âme. Il ne s'agit ni de lutter contre un passé qui se meurt, ni de prendre en charge un passé mort. Il s'agit de comprendre qu'il y a des questions qui n'ont cessé et ne cesseront de se poser à l'humanité. Il s'agit d'en être l'indomptable témoin, et par ce témoignage au présent, d'en être l'avenir. Il ne s'agit pas d'aller s'établir à demeure dans un passé fictif, il s'agit de faire en soi-même une demeure à l'avenir de ce passé. C'est là un processus d'intégration fondamentale, l'intégration et la passion du vrai philosophe dans tous les sens du mot passion. Je vous assure qu'une cure analytique peut être aussi une vraie passion, dans tous les sens du terme, et pour l'analyste et pour l'analysant. Donc l'analyse est véritablement un carouille de l'âme, qui fait rejoindre l'arc de la descente, Krauss al Boul, les théosophes, chimiques, la chute de l'âme, à l'arc de la remontée, Krauss al Boul. C'est pas pour faire revenir au point de départ, ce serait la régression en psychologie, mais pour simplement connecter les deux arcs, et permettre à la roue de tourner, d'être centré au milieu de cette roue. Être centré, d'ailleurs, c'est un mot qui est souvent utilisé par les patients pour dire « je me sens mieux si je suis point, je me sens mieux dans mon âme, je suis centré ». Ce n'est pas être immobile sur un point, c'est être au centre de la roue de son destin. On a l'impression que l'univers tourne en harmonie autour de soi. On dit parfois un sentiment océanique. On a l'impression d'être au centre de l'océan cosmique qui harmonieusement orbite autour de nous. Et là, sans être dans une inflation de l'ego, on est véritablement à l'image de Dieu. Donc vous le voyez, je fais des parallèles un peu téméraires entre Corbin et Jung. Comme je disais, je cherche encore ce que c'est Corbin ou Jungien. Dans mon cabinet, j'ai la photo de Jung et la photo de Corbin, comme deux mots qui veulent sur moi. Et on pourrait critiquer et dire qu'il y a passé des méthodologies scientifiques. J'ai un manque de rigueur philosophique, j'ai des contresens psychologiques probablement. Et justement, je pense que le mundus imaginalis, on l'attrape ni avec la psychologie, ni avec la science, ni avec la philosophie, ni avec enthousiasme, dans tous les sens du terme. Et je crois que cet enthousiasme est un trait typique de l'âme musulmane, et spécialement de l'âme musulmane iranienne, si chère à Corbin. Ahmadinejad a parfois des déclamations assez enthousiastes, on les aime, on les aime pas, mais en tout cas il y a de l'enthousiasme dans le monde musulman. Un peu trop parfois, mais en tout cas il y a de l'enthousiasme. Et peut-être que cet homo islamicus pourrait être un pendant à l'homo economicus, à l'homme désenchanté. Si on le disait, l'Iran se trouve à l'interface des mondes. On peut dire que l'islam se trouve à l'interface entre l'Europe de l'incarnation et l'Asie de la vacuité pure. La deuxième sourate du Coran nous dit, exactement au milieu de la sourate, nous dit « Vous êtes une communauté médiane, venue pour témoigner des hommes ». Donc je pense que l'âme musulmane et les musulmans ont une facilité naturelle à faire ce lien entre le psychologique et le métaphysique, de façon assez décomplexée. Mais il faudrait redonner un peu des clés psychologiques peut-être à cette âme musulmane pour lui permettre de mieux comprendre son rôle. Et la clé jungienne me semble optimale. Jung reprenait le mot de Tertullien, il disait « l'âme est naturaliter christiana » pour dire qu'elle était naturellement spirituelle. Et pour ma part, je pense que l'âme musulmane est naturaliter jungiana. Les musulmans sont un peu jungiens de nature. D'ailleurs, j'ai un ami psychiatre iranien qui, à la sortie du livre rouge, m'avait dit très simplement « mais finalement, c'est le Coran de Jung ». Et c'est un peu vrai. Un dernier point me taraude. Si Jung et Corbin sont si proches, pourquoi ils n'ont pas mis en évidence leur convergence au PNL ? Dans le cahier de l'herbe consacré à Corbin, il y a la lettre de Jung à Corbin. Et Jung fait une sorte de, quasiment une déclaration d'amour à Corbin. Il dit, c'était pour moi une joie extraordinaire, une expérience pas seulement des plus rares, mais plutôt unique, d'être compris complètement. Alors pourquoi ils ne l'ont pas dit plus officiellement ? Pourquoi on sent toujours une dualité entre le psychologique et le métaphysique? Je répondrai par un seul mot, Ketman, Pakriya, la discipline de l'arcane. Jung comme Corbin, ces deux gnostiques ont probablement voulu cacher certaines de leurs choses, et je m'imagine, j'utilise ma fonction imaginale, Corbin et Jung, assis l'un et l'autre en Jabarka et en Jabalsa, en train de rigoler, à se moquer de nous qui sont de comprendre et faire le lien entre les deux. Et c'est comme ça que je continue avec Corbin et Jung. Donc on peut continuer sans crainte le chemin avec les deux maîtres, car on ne peut pas se tromper de route. Corbin nous l'a dit, le centre est partout, le centre est là. Très fort car j'ai un problème depuis, je me suis perforé le tympan il y a 3 jours et j'entends très mal ma propre voix. Donc, excusez-moi.
Merci beaucoup pour cette intervention qui justement a le mérite d'être hérétique et éminemment personnel, justement, pas universitaire, mais c'est-à-dire d'être dans une posture que n'auront jamais pris Corbin et Jung de leur vivant. Je me suis demandé justement pourquoi Jung avait dit qu'il ne voulait pas que son livre rouge soit publié de son vivant et certainement pas avant 50 ans après sa mort. Et en le lisant, je vois bien que c'est parce que il y a cette dimension complètement personnelle dedans, dont il avait peur peut-être qu'elle ne nuise à sa réputation de scientifique et de médecin. Et peut-être que j'ai souvent pensé aussi, souvent on me pose la question, Corbin était-il converti ? Alors je réponds toujours, mais d'abord je n'en sais rien, et ensuite je crois que ce n'est pas la question. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de ce qu'il a vécu personnellement avec son ange, c'est quelque chose qui relève de sa vie intime, et c'est quelque chose qui affleure bien sûr dans son œuvre scientifique, mais vous avez raison, c'est quelque chose qui ne livre pas tel que. Et c'est à chacun de prendre dans son œuvre quelque chose qui permet de rendre présent à chacun présent à son propre ange, justement. Vous avez donc parlé de beaucoup de choses, je vais donner la parole à la salle, mais je voulais quand même, en vous écoutant, je pensais à un passage de, quand vous avez parlé des psychiatres et des schizophrènes, à un passage dans le livre de l'éternité de Mohamed Herbal, qui est un livre qui est un voyage en imaginal, en compagnie du poète Rumi. Et à un moment, ils sont en train de passer comme ça dans un espace et ils voient quelqu'un qui a l'air d'un sorte de derviche amoureux, enfin un fou d'amour. Et Herbois demande à Rumi, mais qui est cet homme ? Rumi lui dit, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche qui était un amoureux parmi les amoureux du monde. Il a brûlé d'amour, mais seulement comme il était né en Occident, il n'a pas eu de guide pour lui montrer qui était, quel était le véritable objet de son amour. Il a eu une chance, c'est qu'il n'avait pas les mollas, et une malchance, il est tombé dans les mains des psychiatres. La parole est à vous.
Il y a un micro,
non, je vais essayer de la poser.
Non, non, mais si vous m'entendez...
Françoise
Bonnardel, j'aimerais savoir comment vous situez ce livre « Hérétique entre tous », je mets « hérétique » entre guillemets, bien sûr, qui est réponse à Job, dans le dialogue réel entre Hume et Corbin, et dans celui que vous nous avez si bien restitué entre le psychique et l'imaginal.
Vraiment, de réponse à Job, le problème du mal. Je ne sais pas si réponse à Job, c'est le livre le plus hérétique, mais...
C'est pas le plus, il est quand même.
Et on peut dire le problème du mal en Dieu, c'est aussi le problème du mal en l'homme. Vraiment, pourquoi on est malade? Et c'est là que Jung a... Jung est très optimiste. Par rapport à Freud. Finalement, on est fondamentalement malade, un peu comme chez Freud, on est fondamentalement névrosé, mais dans la ténèbre de la maladie, il y a une lumière. Vraiment, grâce à la maladie, on peut retrouver la lumière. La lumière, c'est une lumière, c'est plus avant. Je pense que c'est là le point le plus important. Finalement, il faut toujours... Alors, on dit qu'il ne faut jamais dénier, il ne faut jamais dénier les problèmes des patients, jamais dénier... leur souffrance. Et bien sûr, il faut respecter la souffrance. Il faut toujours dédramatiser cela. C'est-à-dire, le mal a un sens. Et on doit faire aussi une sorte de pari. Jung a fait, avec réponse à Job, une sorte de pari personnel. Jung avait une belle phrase. Il disait, j'ai l'impression qu'il y a le sens et le non-sens et j'ai l'espoir anxieux que le sens gagnera sur le non-sens. Et je pense que c'est là que c'est important. Il faut avoir l'espoir anxieux. Finalement, on doit toujours rester anxieux face au mal, on aura toujours une certaine incompréhension, mais on doit garder quand même un espoir. Donc on est de nouveau à l'interface, on ne guérit pas complètement du mal, on ne se débarrasse pas du mal, on ne l'accepte pas complètement, mais on a l'espoir anxieux que le mal arrivera quand même à nous guider aussi.
Pour cette question de Françoise Bonnardel, vous savez, je vous pose la question suivante. Je pense à la préface de Corbin au livre
La Post-France.
Post-France, pardon. C'est extrêmement intéressant, tellement qu'on puisse dire. Mais est-ce que ça ne vous semble pas un préface qui est central, c'est-à-dire présentant un livre, se situe dans les dimensions du livre. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a une grande différence entre la préface et la réponse, la postface, pardon, et la réponse à Job? Est-ce qu'il ne vous semble pas, moi j'ai, en lisant et en relisant cette préface, j'ai eu l'impression d'un très gros malentendu. Vous avez mis surtout l'accent dans votre exposé très stimulant, votre intervention très stimulante, portant sur les ressemblances. Vous avez même dit à un moment donné, à Dorcy, je crois, que le monde imaginal de Jung et celui de Corbin, c'est le même monde, je le pense. Mais pour en revenir justement à cette cause, c'est ce que vous pourriez dire.
Alors, je pense qu'on est chacun dans un camp. On peut être du camp où on pense que Jung et Corbin.
Je suis dans d'autres camps.
Non, je sais bien. Mais je dirais, on peut se dire Jung et Corbin sont. Bien sûr, il y a un malentendu, il y a des choses qu'on n'arrive pas à accrocher. Mais,
c'est intéressant.
Mais à mon avis, et Corbin et Jung, et de nouveau c'est un avis très personnel, mais Jung sentait le souffre. On parlait du livre rouge, on a dû attendre 50 ans pour que le livre rouge soit édité. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais le livre rouge était à l'UBS, la banque principale de Suisse, dans un coffre. Il a été sorti du coffre, la police de Zurich a escorté le livre rouge jusqu'à la maison des descendants de Jung. Un des descendants a dormi en toute la durée de la traduction dans la même pièce que le livre rouge, et la maison était entourée par la police. Donc Jung sent encore le souffre. Réponse à Job est clairement aussi un livre qui sent le souffre. Et moi j'ai le sentiment que Jung et Corbin ne pouvaient pas peut-être mettre en pleine lumière leur ressemblance. C'est une hypothèse. C'est ma foi peut-être. Au monde enthousiaste, ils aimaient tellement Jung et Corbin, j'ai absolument envie qu'ils soient complètement identiques, mais on sait bien, l'islam a beaucoup de problèmes de nos jours et on parle assez peu de Corbin. L'âme humaine va très mal, on parle assez peu de Jung. Jung reste un hérétique en psychanalyse et en psychologie. Donc ils sont presque un peu trop en avance sur leur temps. Donc je suis d'accord avec vous, il y a des différences. Je constate des différences et j'ai le sentiment qu'il y a aussi des ressemblances. Mais je suis probablement pas aussi avancé que Corbin et Jung, donc je ne pourrais pas non plus. Je peux que sentir qu'il y a des ressemblances et différences, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Mais à nouveau, on ne reste pas dans la dichotomie, mais on se dit où est l'interface. L'interface, c'est la partie la plus importante. Et l'interface, ne peut que être personnelle. À nouveau, dans le présent de mon âme, qu'est-ce que je fais avec l'âme, qu'est-ce que je fais avec Dieu, qu'est-ce que je fais avec le mal, qu'est-ce que je fais avec Dieu, qu'est-ce que je fais avec Corbin. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je me défile un petit peu. Hein.
Non, mais votre questionnement personnel m'intéresse moins que la différence que l'on peut voir entre les deux mondes. C'est ça que je dis.
Oui, bien sûr.
C'est ça ma question, ne porte pas sur vous.
Non, je sais bien.
Je suis objectivement pour nous, les auditeurs, peut-être éclairant en matière de différence, voire exposé avec une relève clarté, que vous seriez évidemment parfaitement capable de faire. Et vous avez, en vous situant sur un plan très personnel, mis l'accent surtout sur des parallélismes. Ouais. Alors qu'au fond, tout le monde sait quand même que pour Corbin, le monde imaginal existe en dehors de nous, existerait même si vous dites le monde n'existerait pas, alors que pour Corbin, c'est nous, c'est pas le cas. Et puis dans la fin du récit de vie, et puis, lire sa correspondance avec le théologien. Donc, c'est tout de même une différence importante. Elle porte sur la notion de croyance. C'est différent. Je dis bien que la notion de croyance n'est pas très opératoire du corps de vie. Ça, c'est même la question se pose. Question de profession ou de non-profession de foi. C'est tout de même un élément qui a un certain intérêt.
Alors, je reviendrai pour une prochaine journée en Corbin et je préparerai une réponse digne de ce nom.
Oui, je me demande si on ne peut pas faire un lien, une comparaison entre, par exemple, la rencontre d'Ibn Arabi avec Rouet. C'est-à-dire, c'est des malentendus. On pourrait peut-être faire, si Corbin était un praticien soufi, s'il était un maître soufi, ayant ses disciples à qui il va donner le deck, tout cela, c'est sûr qu'il y aurait encore peut-être plus d'intérêt puisque les deux s'occuperaient l'un d'un malade et l'autre d'un mouri, c'est quand même différent parce que l'un envisage des choses différentes. Mais je pense que l'intérêt entre les deux était cette curiosité de savoir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous en êtes avec votre méthode, un peu ce que la question que Averroès a posé à Ibn Arabi, est-ce que tu es arrivé aux mêmes conclusions que lui, etc. Il y aura toujours, bien entendu, mais il est certain que le monde imaginal n'est pas le monde imaginaire.
Ah, bien sûr.
Ça a été tellement dit. Que...
Je croyais que Jung avait passé 10 ans dans une cure à étudier les gnostiques. Je ne me trompe pas. Et j'ai pas entendu le mot gnostique, qui aurait éventuellement permis. Bon, deuxième chose, le Cuivre Rouge, dans cette salle même, il y a 40 ans, on l'agitait fébrilement avant de partir en manif. Il avait une toute autre orientation, j'imagine bien, mais il y a eu une génération qui s'imaginait que le Cuivre Rouge allait faire basculer quelque chose. Ma dernière question, c'est que signifie le nom Corbin ? Les psychanalystes, j'ai vu Freud, à longueur de temps, il étudie les noms propres.
Ah, justement, je suis pas
freudien. Les mystiques aussi étudient les noms.
Vous n'êtes pas freudien, je crois.
Mais justement, je suis pas freudien.
Non, mais le nom a du sens. Alors, que signifie Corbin et comment même peut-on lire Henri? Alors, je vous donne une petite histoire de... On appelle tête de Corbin en alchimie, c'est-à-dire terre de corbeau, le noir du noir. Le noir du noir de l'alchimie médiévale s'appelle la tête de Corbin. Et on appelle os Corbin l'os du cul du du cerf. Et lorsque vous dépouillez un cerf, il est très important de tourner autour, de ne pas le blesser, parce que c'est l'os de la résurrection. Traduction que, je pense, vous connaissez, et en islam, et en kabbale, c'est-à-dire que c'est le petit os du bas, quand on demandait à Cholem ou Igor Falissé, quand il était en compagnie de Dali, eh ben, il se frappait le bas de l'épine dorsale. Et je trouve qu'en ésotérisme, il serait très important d'interroger un peu, bon, la psyché, c'est bien, hein, mais il faut quand même rappeler que pour un sot, il y a trois âmes, hein, une ici, une là. Et que la dernière s'exprime par le bas. Je crois qu'en ésotérisme, c'est important de temps en temps, peut-être de faire comme Marx, qui remet les gens sur la tête par rapport à Hegel. Parce que je trouve qu'Hegel a été éliminé vite fait, tout à l'heure, un peu trop vite. Thèse, antithèse, thèse, c'était ce que nous disaient nos professeurs de philosophie ici. Ils commençaient le cours sur la philosophie de l'histoire de Hegel, qui quand même commence par cette image extraordinaire de la croix et de la rose, qui réconcilie, c'est la raison et la rose sur la croix de la souffrance humaine, qui réconcilie, et réconcilie, le terme a été employé, qui médiatise, qui réconcilie le passé et le présent, etc. C'est assez extraordinaire, la fête de lumière, on s'envole, toujours un peu tout ça. Et moi, j'aimerais savoir si Corbin, mais peut-être que d'autres ont une réponse. Quant à Henri, c'est le nom donné au Christ par tous les paysans français, parce que voit-il sur les croix? Et oui, mais attention, il y a des textes allemands du 15e siècle où on insiste sur le fait que le nom du Christ était Henri. Un texte extraordinaire qui s'appelle Le pauvre Henri, au 15e siècle allemand, qui joue sur Inri. Ça pensait que c'est pas Henri, mais enfin.
Donc, Corbin, c'est le
travail. Ah, je connais pas du tout ces mots, le sens du mot Corbin, mais je peux dire juste que l'os du bas. En tant que psychanalyste, je suis assis sur mon os de corbin toute la journée.
Mais même les rois ne sont jamais assis sur leur cul.
Dernière intervention. Juste rapidement, parce qu'après on a une autre
intervention. Corbin, ça veut dire la fête de sa vie à Dieu, le
corbin. À la
corbin. Donc c'est peut-être aussi une résonance. Dans la fonction politique du Mandalo, ce n'est pas ça. Parce qu'à l'origine, il y a toujours des gens humains, publics, qui sont associés dans l'entreprise mondiale, les gens qui restent toujours dans les langues. Ils ont ensemble des sens multiples. Le mot originel va avoir plusieurs sens différents, mais il reste un sens universel à part.
Ben, ce sera le sujet d'une autre journée, je crois, parce que la question de l'onomastique est tout à fait essentielle.